Liliane Daligan est psychiatre en médecine légale et autrice du livre « Violence conjugale en guise d'amour » dans lequel elle retrace le parcours de 9 femmes, victimes, et 3 hommes, auteurs de violences conjugales. Les violences conjugales et l'emprise psychologique qui en découle ont été le terrain d'expertise de cette psychiatre durant des années, tant auprès des auteurs que des victimes de ces violences. Liliane, comment se met en place l'emprise quand on est dans une relation de couple ?
La plupart disent combien l'homme rencontré est un prince charmant, il est doux, gentil, attentif, serviable. C'est vraiment le prince charmant. Et c'est souvent sous le sceau du coup de foudre. Et puis, on va voir apparaître, alors ça dépend, ça peut être plus ou moins rapide, des moments d'agacement, d'irritabilité, voire de colère. Parfois, des injures vont jaillir ou des griefs sur son apparence, sur sa manière de s'habiller, sur sa manière d'être, de parler, etc. Donc, une sorte de dénigrement psychologique, hein, d'accord. Et puis, peu à peu, il va y avoir une sorte de volonté d'isolement de l'autre qui doit être tout à moi et ne pas rencontrer d'autres personnes, que ce soit des amis, des professionnels ou même des membres de la famille. Donc, je me la garde pour moi. Elle est à moi. Il y a pratiquement toujours cette volonté de dominer l'autre et de le posséder.
En tant qu'experte des violences conjugales, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les dimensions psychologiques de l'emprise ? Comment l'emprise est-elle psychologiquement, presque scientifiquement constituée ?
Dans l'emprise, on distingue 3 dimensions principales. Une action d'appropriation de l'autre, on se l'approprie, elle est à moi, hein, rien qu'à moi. Elle ne peut même pas s'appartenir à elle-même. Et ensuite, une action de domination, où l'autre est maintenu dans un état de soumission, de dépendance totale, à tous les modes, hein, physique, psychologique, économique, sexuel. Et puis la troisième dimension, c'est une empreinte sur l'autre, une véritable empreinte que l'on veut marquer physiquement et psychiquement. On le voit en particulier dans les violences type de brûlures qui laissent des traces et des empreintes. C'est comme si on marquait la femme un peu comme un animal.
Cette emprise va ensuite se ritualiser dans un cycle, le cycle de la violence, qui peut se répéter des semaines, des mois, voire des années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de ce cycle ?
Il y a pratiquement toujours un cycle de la violence, un cycle. Ça commence, en général, on est bien, tout va bien, on est tranquille, et puis peu à peu, l'ambiance se transforme, l'auteur de la future violence devient très tendu, irritable, il n'est pas bien, voilà, il va commencer à parler fort, à taper sur les meubles, il manifeste donc qu'il est sous tension, et la femme, elle est totalement dominée, asservie, elle essaye de faire en sorte que ça passe, mais ça ne va pas passer. Deuxième temps, c'est le passage à l'acte. Premier temps, c'est la tension. Tension, hein ? T-E-N-S-I-O-N. Le deuxième temps, c'est le passage à l'acte violent, que ce soit par les cris, les vociférations, les violences physiques, sexuelles. Mmh. Il y a un passage à l'acte, là, une explosion de violence. La fureur, là, hein, vraiment... du côté du violent et du côté de la victime, eh ben, il y a la terreur, la peur, la soumission, c'est vraiment la sidération, elle est vraiment très très mal. Troisième temps, c'est pas la véritable réconciliation, mais il y a une sorte de rationalisation où l'auteur vient dire « oui d'accord, j'ai été violent, mais tu l'avais bien cherché ». Hein, il justifie, période de justification de la violence par l'auteur, et la victime va finalement accepter ces justifications et se dire bah, « c'est bien de ma faute, je l'avais bien cherché ». Troisième temps. Et puis on va arriver au quatrième temps, qui est le temps des retrouvailles, des réconciliations et du pardon. La victime va pardonner à l'auteur, qui va arriver avec des bouquets, des cadeaux, etc. Et ça peut durer longtemps, cette période de pardon, de réconciliation. Et c'est là où l'auteur va dire à la victime, mais je vais me faire soigner, mais je vais aller voir quelqu'un, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de faire tout ce que je fais, je vais me faire soigner. Il promet. C'est le temps de la promesse. Et la victime va croire à ses promesses. C'est pour ça qu'elle va rester. C'est pour ça que ça peut durer longtemps et qu'on va être dans la répétition, répétition, répétition des violences.
Et Liliane, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les conséquences pour les victimes de cette emprise psychologique ?
Ah ben, les conséquences pour ces femmes, ben, c'est déjà la dégradation physique et psychique, parce qu'elles sont soumises à des traumas répétés. Elles sont dans la peur permanente, elles n'arrêtent pas de penser à ce qui va arriver ou à ce qui est arrivé. Elles n'arrêtent pas d'avoir des cauchemars, des troubles du sommeil, elles sont dépressives, elles vont très très mal en général. Donc il y a un état, à la fois un trauma psychique et un état anxio-dépressif. Elles sont dans l'angoisse et la dépression. Et on peut voir beaucoup de suicides, de tentatives de suicide dans les suites de cette mise sous emprise. On appelle ça aussi maintenant le contrôle coercitif, c'est assez proche.
Et est-ce qu'on peut aider ces femmes dans ce type de situation lorsqu'on fait partie de la famille, des amis, des proches qui remarquent effectivement cette emprise psychologique, qui remarquent effectivement une femme en situation de danger dans un foyer conjugal violent? Est-ce qu'on peut aider ces femmes, Liliane?
En général, ils font le vide. Elle ne peut plus voir ses amis, elle ne peut plus voir ses frères et sœurs, elle ne peut plus voir ses parents. Donc, c'est pour ça que l'isolement est total. Et c'est pour ça qu'il est souvent difficile d'aider une femme victime de violence, parce qu'elle est dans cet isolement, parce que souvent aussi, elle prend fait et cause pour son bourreau. Et si la famille intervient, il va être envoyé dans les cordes. Et il va falloir y aller toujours avec beaucoup de prudence. S'il y a des auteurs de violence qui peuvent être tout gentils, vraiment remarquables pour l'extérieur. Ils vont être violents et dictateurs uniquement à la maison, mais à l'extérieur, ils peuvent apparaître comme un très bon professionnel, un bon ami, un bon copain, et presque un bon mari. C'est pour ça que bien souvent, les familles disent « mais jamais on aurait cru, jamais on aurait pensé qu'elle était victime ».
Donc effectivement, le déclic appartient donc à ces femmes. Quand est-ce qu'il arrive ce déclic? Quand est-ce qu'elles décident de partir?
Elles disent qu'elles ont pu enfin se séparer définitivement quand elles ont vraiment cru mourir. Au moment d'un passage à l'acte, ou au moment où il a dit « je vais te tuer, voilà, je vais t'exterminer, je vais t'écraser », voilà. Et là, elles se disent, il y a souvent des tentatives de strangulation, d'étranglement, d'étouffement. Et là, elles disent combien tout d'un coup, elles se sont vues mortes. Et là, c'est comme s'il y avait un sursaut de vie et elles peuvent enfin se séparer définitivement parce que la mort a été là.
Et une fois parties, comment on se reconstruit? Comment ces victimes, ces femmes, se reconstruisent après des mois, des années parfois, d'une relation d'emprise et de violence conjugale?
Non, mais elles se rendent compte de l'emprise, pas toujours pendant pendant la période de l'emprise. C'est comme si c'était une relation normale qu'elles vivaient. Avec ce fameux cycle de la violence. Et puis, comme elle le dit souvent, il est tellement gentil quand il ne me bat pas. C'est comme un enfant. Elle peut dire combien cet homme-là peut être infantile, immature, privé de parole. Enfin, voilà. Elles peuvent faire un constat. Mais comme elles le disent, et certaines peuvent dire d'ailleurs très, très longtemps après, moi, quand je les vois en expertise, donc c'est fait parfois plusieurs années après la séparation, elles peuvent dire « mais je l'aime toujours ». On voit bien qu'il y a une sorte d'attachement pathologique. Moi, j'appelle ça un attachement pathologique. Elles sont attachées, mais de manière pathologique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles ont cet attachement pathologique? Bon, j'ai rencontré un grand nombre de ces femmes. Beaucoup n'ont aucun trouble personnel. Elles n'ont pas de vulnérabilité. Elles n'ont pas de fragilité psychique. D'autres ont une fragilité dans la mesure où elles étaient maltraitées ou violées quand elles étaient enfants ou adolescentes. Et c'est aussi le cas pour les femmes qui ont vécu dans un milieu de violence intrafamiliale, quand leur père était violent avec leur mère, etc. Il y a une identification à la femme violée, à la femme battue. Voilà, on peut trouver un terrain particulier ou aucun terrain, ce qui fait qu'on ne comprend pas, en gros, pourquoi la femme a accepté de s'être mise sous emprise, sinon parce qu'elle a cru vraiment que c'était le prince charmant et qu'il allait changer. Elle croit toutes qu'il va changer et qu'elles vont le changer. Elle croit être thérapeutique. Or, l'amour n'est pas thérapeutique.